Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Vous vous souvenez de ce qu'on a dit la semaine dernière ?
Alors, on va reprendre notre texte. D'abord, il y en avait deux. On va reprendre ça. Dans 1 Pierre, d'abord. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Ça, c'était le principe. Et puis après, on va voir le commentaire. Alors, 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Alors, je rappelle, tout simplement. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors maintenant, nous allons dans le vif du sujet, nous allons descendre dans la maison du potier. Jérémie chapitre 18. Et je reprends le même texte parce que il n'y a pas de changement dans le texte de référence. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Un vase, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole. Et j'aimerais faire un petit récapitulatif de tout cela. Invitation de Dieu à descendre pour voir ce qui se passe dans une poterie. Et nous avions naturellement à la base donné la comparaison avec l'homme tiré de la poussière, parce que c'est ainsi que nous sommes présentés, que Dieu donne finalement l'existence à l'homme, et ça c'est naturellement les références du livre de la Genèse. Ensuite, nous avions parlé du secret de la réussite d'un objet de poterie, parce que ça tient naturellement à plusieurs choses. D'abord à la qualité de l'argile, nous allons en parler. Ensuite, la préparation des matériaux de base. Et c'est ce qui va faire l'objet aussi de notre méditation aujourd'hui. Et puis naturellement, l'habileté du potier. Parce que n'est pas potier qui veut. On est bien d'accord, ça s'apprend. Et puis nous avions parlé de cette destination, de ce désir au fond du cœur de Dieu, c'est de faire de chacun d'entre nous des vases d'honneur, comme cela est exprimé dans les paroles du Nouveau Testament, avec toutes ces analogies. Devenir entre les mains de Dieu des êtres transformés, avec un caractère chrétien, possédant l'esprit de l'Évangile, l'esprit de Christ en lui, avec une personnalité spirituelle pour une vocation spirituelle, une vocation céleste. Nous avions également réfléchi quelques instants sur l'homme et l'argile, parce que la science nous dit que nous sommes de la même composition chimique, c'est-à-dire que nous sommes nés de la poussière. Et nous sommes à l'origine des vases de terre, et nous restons des vases de terre avec une destination de devenir des vases d'honneur. Et naturellement, Dieu a de grandes perspectives pour les hommes qu'il a sauvés, s'est rachetés à travers la rédemption, le salut en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus des réceptacles de la vie, à tel point que Paul n'hésitera pas dans le livre, dans l'Épître aux Romains, de dire... aux Corinthiens plutôt, il dira « Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Donc, réceptacle de la vie, de la puissance de l'Esprit. Nous avons chanté ce cantique, « Révèle-toi, Seigneur, donne-nous la puissance, etc. » Eh bien, c'est cela. Et naturellement, porter moralement, spirituellement, l'image de celui qui est notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. Et puis, il y avait également dans nos propos de la semaine passée que, comme au monde de la création, l'ouvrage reçoit un nom qui le distingue en raison de son usage, en raison de sa beauté, en raison de sa dignité. Et tout dépend de ce que nous laissons au divin maître faire de notre vie. Et c'est là peut-être où, quelquefois, nous heurtons, hein, nous attristons le Saint-Esprit, parce que nous avons notre conception à nous, et puis bien le Seigneur ne peut faire que partiellement son œuvre. Parce que la différence d'une poterie, d'une masse de glaise, eh bien, c'est que nous sommes des êtres vivants, pensants et intelligents, et nous disons, Seigneur, stop, ça suffit, je ne vais pas plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Alors donc, il y a cela. Et cela, naturellement, supposait de la souplesse, enfin, toutes sortes de choses. Dans le travail de la poterie, nous avions considéré, nous nous sommes arrêtés là, quatre éléments qui rentrent en jeu, importants. D'abord, l'art de l'ouvrier. Entre ses mains, je rappelais qu'elles sont parfaites, que nous n'avons rien à dire. Parce que le but qu'il s'est assigné est bien certainement meilleur, même si je ne comprends pas où il veut m'emmener. Dieu, ce qu'il veut faire. Et quand il a projeté de faire un produit fini, eh bien, nous avons tout simplement qu'à lui faire confiance totale. Et ça, ça réclame de la foi de notre part. Et puis, il y avait un autre élément pour la réussite d'une poterie, eh bien, c'est l'eau. L'eau qui imagait naturellement toutes les difficultés existentielles qui pleuvent sur nos vies, notre humanité, notre existence chrétienne, et qui détrempe les eaux de l'épreuve, de l'adversité, qui assouplissent, qui érodent les aspérités et qui finissent par nous polir. Parce que à ce moment-là, eh bien, comme un beau vase lorsqu'il sort là du tour, vous avez vu comment il est lisse, hein, il a été travaillé, il est lisse, mais c'est pas fini. Et puis il y a après le rythme du tour, hein, il y a différentes vitesses, et nous avions évoqué le temps qui lime nos impatiences. Et pour faire un beau vase, ça prend du temps. Eh oui. Et pour faire un homme de Dieu, ça prend du temps. Pour faire un caractère chrétien, ça prend du temps. Et puis nous avions terminé par le feu, parce qu'il n'y a pas de poterie sans feu. Hein? Quand elle sort tout simplement, elle va peut-être sécher, tout doucement comme ça, mais elle ne sera jamais résistante. Il faut qu'elle passe au feu. Et le feu, c'est l'affinage de l'esprit, qui brûle, qui est pur, qui fixe, qui établit. Et l'épreuve, précisément cette épreuve-là du feu, eh bien nous fait ressortir plus solide, et je dirais plus beau encore, et utilisable par le Seigneur. Alors nous avions dit beaucoup de choses. Alors maintenant on va continuer, si vous voulez. Parce que nous apprenons, de par notre réflexion, c'est que avant d'être un vase utile et d'ornement, l'argile, je m'exprime la matière première, eh bien là, qui a été finalement retiré de son lieu, eh bien, doit subir une préparation. Et nous avions évoqué, moi j'avais simplement dit, que cela équivalait à la repentance, à la conversion, à une nouvelle naissance. Donc il y a un temps. Hein, les choses ne se font pas peut-être aussi vite qu'on le pense, mais Dieu sait très bien pourquoi les choses sont faites ainsi. Il y a une première étape dans la préparation de l'argile. C'est faire reposer cette masse. C'est faire reposer l'argile, ça peut prendre quelquefois certainement des jours, voire des semaines et des mois, avant de pouvoir commencer à prendre cette masse et la mettre sur le tour. Ça, c'est toujours, en quelque sorte, la réserve du potier. Il a toujours de l'argile chez lui. Et il le laisse sous une bâche, là, dans un endroit particulier de son lieu. Alors, il faut faire reposer l'argile qui a été nouvellement extraite des couches sédimentaires. On ne prend pas une masse d'argile et on la met sur le tour, on fait quelque chose. Ça, ce sont peut-être les enfants qui font ça, mais un potier ne fait pas ça. Il y a toute une préparation. L'argile brute est souvent dure, forcément sale, et difficile à modeler parce qu'elle résiste. Elle va résister parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait avant. Il lui faut une mise au repos. Alors, contrairement peut-être aux idées reçues évangéliques, quand quelqu'un se convertit, il a besoin de se tenir tranquille devant le Seigneur et pas partir à tout feu, tout flamme, dans tous les sens, parce qu'il va faire beaucoup de choses, mais il ne va pas aller loin. Et c'est souvent le problème des nouveaux convertis. Et quelquefois, nous ne comprenons pas toujours en disant « Voilà, c'est formidable, il est rempli de ceci et cela », mais n'est-ce pas quelquefois exposer les néophytes et les nouveaux baptisés ou les nouveaux convertis à des difficultés et les amener justement dans leur inexpérience et bien ne pas réussir. Il y a nécessairement donc cette mise au repos. Au sens spirituel, pour nous, nous pourrions dire que Dieu nous tient en attente aussitôt après nous avoir extraits de nos péchés. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que des exemples bibliques, il y en a. Il nous a délivrés de notre servitude, de notre esclavage, du monde, de l'esprit du monde, mais ce n'est pas pour ça que, après avoir été délivré, que quelquefois le monde n'est pas là encore très présent. Il frappe encore très fréquemment à la porte. Donc il faut quelque chose. Et nous sommes encore tellement imprégnés de là où il nous a tirés. Il est question de Moab dans le livre de Jérémie. Il nous est dit que Moab repose encore sur Sali. Il n'a pas été purifié, Moab. Il n'a pas été encore là, eh bien, il n'a pas voulu être traité de toute manière. Alors c'est vrai qu'à la conversion, eh bien, il faut que les choses se fassent. Elles vont se faire forcément dans le temps. Je bénis le zèle des nouveaux convertis et nous bénissons le Seigneur en même temps. Mais attention, attention, ils ne sont pas aguerris. Ils ne sont pas avertis parce qu'il y en a un qui sait qu'ils ne sont pas avertis. Et je peux vous dire que s'il peut les fusiller, s'il peut les piétiner, les pilonner, et quelquefois c'est ce qui fait que, et vous le savez par expérience, que quelquefois nous avons baptisé des gens avec une réelle conversion, et qui n'ont été que des étoiles filantes. Ils sont rentrés, ils sont sortis, on ne les a pas vus. Et ils ont été, mais c'est ce que dit Jésus, quand il nous parle du semeur et de la parabole, vous savez, du chemin, où la graine est semée dans les endroits, de la terre meuble, et puis aussi des endroits pierreux. Ah, ça pousse, hein. Ça pousse très vite. Ils reçoivent l'évangile avec joie, ils reçoivent avec enthousiasme, et dès qu'il y a un peu de chaleur, dès qu'il y a un peu d'aridité, il n'y a pas de sol profond. Alors il faut que l'argile se repose. Il faut qu'il y ait tout un travail de préparation. Les exemples de la Bible abondent. Moïse a été mis, figurez-vous, 40 ans à se reposer. Il n'était pas content, hein. Enfin, il n'était pas content, il avait choisi quand même un peu sa situation. 40 ans dans le désert de Madian. Et puis Jacob, 21 ans chez Laban. Et là, c'était toute une histoire. Joseph, 17 ans dans les geôles infâmes d'Égypte. À se préparer à devenir le deuxième personnage de l'Égypte. Israël à Élim, il nous est dit que Dieu les a amenés à Élim, il n'y avait pas d'eau, ils se sont révoltés, Dieu leur a dit maintenant, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je suis capable de faire. Ils en avaient plein les yeux encore des miracles de la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas encore compris. Et Dieu les a amenés à Élim où il y avait 70 palmiers. Et il y avait une oasis qui était là et Dieu leur a dit maintenant, vous restez tranquille, vous restez en repos parce que maintenant la route qu'il va avoir à faire, vous allez voir qu'elle est longue, hein. Parce qu'ils pensaient peut-être remonter directement par chez les Philistins, mais Dieu les a fait descendre vers le Sinaï. Alors il leur a dit, du calme, vous connaissez pas ce qui vous attend. Normalement, ça aurait dû durer 2 ans, mais comme ils se sont impatientés, ça durait 38 ans de plus. C'est-à-dire 38 plus 2, ça fait 40. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Quand il prend l'argile et qu'il le prépare pour devenir véritablement Paul en Arabie, vous savez que Paul a eu un ministère extraordinaire, et il nous est dit, là, dans la Bible, dans le livre des Galates, il nous est dit que pendant 3 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il nous a dit seulement qu'il avait été en Arabie. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Moi, je pense que Dieu a certainement travaillé son cœur. L'a mis en repos pour préparer son apostolat extraordinaire. De la laideur à la beauté. De la faiblesse à la force et à la puissance. Tenir notre âme en repos est une étape indispensable, comme il est nécessaire à l'argile fraîchement extraite de subir une première décantation. C'est comme ça qu'on appelle les choses. Une première décantation. Sans cela, cette argile sera impropre à servir, inutilisable. Et ça fait partie des règles élémentaires qu'un pasteur doit savoir dans une église, que les frères anciens doivent aussi connaître. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Parce qu'après, on va pleurer, on va avouer. Parce que ce n'est pas le nombre de baptisés qui compte, hein. C'est que véritablement ils soient bien convertis et qu'ils tiennent le coup. Parce que si c'est pour la glorification, excusez-moi, même la gloriole de l'Église en disant nous avons baptisé tant et tant de personnes et que finalement il n'y a rien du tout, il n'y a qu'une conversion superficielle, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Il faut véritablement avoir le sens que l'argile doit se reposer, qu'il doit y avoir quelque chose. Il y a une nécessité d'instruction, une nécessité de, en quelque sorte, eh bien que les gens s'affermissent. S'il n'y a pas de racines, qu'est-ce que ça va donner? Et l'argile, c'est pareil. Un potier ne prendra pas de l'argile qu'il va aller chercher là dans un endroit et puis qu'il va commencer à le travailler. Il va commencer à faire, mais à la suite. C'est exactement ce que nous allons voir. De cette première opération va se dégager deux choses, la boue et l'argile proprement dit. Toutes ces boues qui ressemblent peut-être à l'argile. Et ça va se faire, je dirais bien, naturellement, lentement, la séparation va s'effectuer. Il suffit tout simplement de mettre cette masse d'argile dans un endroit, et puis avec le temps, avec là tout un, enfin le repos, eh bien il va y avoir quelque chose qui va se faire à ce moment-là. Et le potier sait qu'il lui faut attendre, qu'il sait qu'il lui faut laisser faire. Un potier expérimenté, au premier coup d'œil, parce que c'est un professionnel, sait reconnaître ce qui est propre et impropre, et il connaît à l'avance ce qu'il tirera de la masse épurée, tout comme Dieu connaît ce qui nous convient le mieux. Et chacun d'entre nous, nous avons une personnalité, un caractère, nous avons un appel, nous avons certainement une mission particulière, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Et moi, je bénis Seigneur qu'on ne soit pas tous pareils. C'est formidable. Quelquefois, on a vu dans nos milieux, dans les milieux religieux, qu'il faut que tout le monde ait derrière le chef, et puis la même casquette, la même cravate. Enfin, ça ne concerne pas les dames, la cravate. Mais toujours est-il que tout le monde pareil, c'est l'uniformité. Eh ben moi, je dis que ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Parce que quand Jésus a choisi ses disciples, il les a pris de toutes les façons. Ils sont différents les uns des autres. Et dans une église, il y a la diversité, il y a la multiplicité, et c'est ce qui fait justement l'harmonie et la beauté d'une église. Alors, on comprend que quand il nous a choisis, eh bien, il nous a choisis parce que nous étions différents. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il sait ce qui va être prêt demain, ce qui va être prêt après-demain, ce que deviendra un tel ou un tel. Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Alors, ne jouons pas quelquefois au plus sage ou au plus intelligent que le Seigneur. Il y a des choses qui doivent se faire dans la vie des gens. Et en attendant, en tous les cas, quoi qu'il en soit, l'Église offre justement eh bien, cette période de préparation. Parce que l'Église, c'est ça. En écoutant la parole, en ayant des activités, naturellement, en faisant ce que Dieu a mis sur notre cœur. Mais les choses doivent se faire, eh bien là, comme Dieu le veut. Vous savez que Dieu travaille avec espérance. Quelquefois, nous travaillons à courte vue. On dit, Seigneur, ça ne marche pas, ça ne se fait pas, il y a ceci et cela. Mais au lieu de regarder ce qui ne se fait pas, regardons ce qui se fait. Et remplissons nos cœurs de foi et d'espérance, parce que Dieu travaille avec cette espérance. Il est le créateur d'une renaissance. Créateur d'une renaissance en nous, il possède la vision de ce que nous sommes appelés à devenir. Les uns auront telle ou telle fonction. Quelquefois même dans le silence et dans l'humilité et quelquefois caché. Et je ne me demande pas si quelquefois ce sont ceux qui sont le travail le plus caché qui sont les plus importants aux yeux de Dieu. Ouais. Vous savez, les principes du royaume de Dieu, ils sont contraires aux principes du monde. Alors tout ce qui brille, tout ce qui parle beaucoup, parle fort, ça nous intéresse. Mais quelquefois, je me dis que l'Église, elle tient comment l'Église ? Elle tient avec des gens qui sont fidèles, avec des gens qui, quelquefois, eh bien, ne font peut-être pas en apparence grand-chose, mais ils sont là. Ils sont fidèles, ils ne bougent pas. Et ça, c'est ce qui fait vivre l'Église, puis c'est ce qui glorifie le Seigneur, d'ailleurs. Alors, on voit que tout cela, eh bien, a certainement sa raison d'être. L'idée de Dieu est déjà faite sur chacun d'entre nous. Vous savez que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, mais en attendant, quoi qu'il en soit sur cette terre, eh bien, il formule des promesses de beauté, mais sur le plan moral. Il formule des promesses de force, d'utilité, et l'ambition de Dieu est précisément de les réaliser en nous et de nous faire le plus beau possible, c'est-à-dire à l'image de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, peut-être s'inspirant un petit peu de ses idées, enfin en tous les cas de cette doctrine, de ce que Dieu travaille avec espérance, eh bien, il écrira ceci dans Romains, « Le corps est semé mortel et il ressuscite immortel. » Ça, c'est le travail du Seigneur. Parce que non seulement il travaille pour... Déjà, il nous prépare ici dans ce qu'il y a peut-être dans notre vocation terrestre, mais il nous prépare de l'autre côté. Il est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. On a du mal peut-être à se faire une idée de ce qu'on va être de l'autre côté. Ah, mais ça, c'est le secret de Dieu. Et je crois que ça sera des qualificatifs comme « admirable, émerveillement ». Ça sera quelque chose que notre esprit et notre pensée ne peut pas comprendre aujourd'hui. Parce que lui, il est l'artisan. Nous sommes la pâte. Nous sommes l'argile. Et il veut nous modeler
Et tout dépend de notre réaction, je dirais de notre réactivité au message et au travail du Saint-Esprit.
Oui, quand nous prions, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, change-moi, Seigneur, utilise-moi. Vous savez ce que nous disons ? Je ne crois pas que nous savons toujours ce que nous disons, parce que quelquefois nous serions peut-être un peu plus circonspects. Seigneur, transforme-moi, Seigneur, envoie-moi. Puis il arrive un moment où le Seigneur nous envoie et on dit à ce moment-là, Seigneur, je ne peux plus y aller. Parce que je n'avais pas pensé que c'était comme ça. Ah oui ? Forme-moi, Seigneur. Et tout dépend de notre réactivité, de notre réaction entre les mains du divin potier. Nous nous apercevons que l'argile d'ordinaire, cette terre, l'argile devient un matériau extraordinaire. Et lorsqu'elle est travaillée, elle s'améliore avec le temps. On pourrait dire même qu'elle s'anoblit. Tout autant que nos vies, si nous consentons à changer parfois, quand le Seigneur nous le demande d'habitude et d'attitude. Eh oui, parce que c'est ça le travail de Dieu. De réagir autrement dans certaines circonstances, avec plus de souplesse et plus de flexibilité. Vous savez, une âme, un homme, une femme qui glorifie le Seigneur, c'est quand le Seigneur lui dit « Tu vas ici, il y va. Tu vas là, il y va. » Il est souple, il ne discute pas. Il vit dans la foi et il fait confiance à son Dieu. C'est ça justement la grande... Ça, c'est un homme qui... ou une femme qui véritablement glorifie le Seigneur. Il fait la volonté, comme Jésus faisait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et il ne faisait rien, dira-t-il dans l'évangile de Jean, que tout ce qu'il a vu faire à son Père. Le Fils ne fait que ce que le Père lui a montré de faire. Souplesse et flexibilité. On ne peut pas travailler à endurcir les gens. On ne peut pas travailler à endurcir les chrétiens. Il faut les amener, eh bien là, à être souples entre les mains du divin potier. À travers une inspiration du Saint-Esprit, à travers une compréhension, une interprétation spirituelle de la parole. Parce que vous savez, nous le disions la semaine dernière, la lettre tue et l'esprit vivifie. Et c'est une puissance de vie, la parole de Dieu. Alors, comme les personnalités humaines, il existe différentes sortes d'argile. Il y a les ordinaires, il y a les plus fines, il y a les colorées, il y a celles qui sont teintées en gris, celles qui sont teintées en jaune, celles qui sont rouges, celles qui sont brunes. Et cette coloration est due à la présence d'oxyde, nous dit finalement eh bien, le potier. Parce qu'il y a différentes provenances d'argile. Je ne sais pas si en Bretagne il y a de l'argile. Non, il y a du granit. Mais alors là, pour le modeler, vous pouvez y aller. Hein. Faut s'y prendre de bonne heure. Hein. Mais les argiles, il y en a de différentes sortes. Hein. Et différents pays possèdent des argiles. Hein. Je crois que Limoges, par exemple, a une réputation mondiale. Et puis d'autres pays. Alors, pour plus de beauté et d'effet, le potier va faire une chose. Il va mélanger. Il va associer les argiles colorées entre elles. Alors, elles vont certes dans un premier temps perdre leur identité, eh bien originelle, ou originale, pour devenir par la fusion de plusieurs un ensemble encore plus harmonieux. Et néanmoins, le passage au feu fera ressortir la touche particulière de chacune des argiles utilisées. C'est pour ça que quelquefois, on voit des choses formidables. On voit des veines, on voit des reflets, on voit des teintes. Et je ne sais pas si vous avez été naturellement dans un musée où il y avait des poteries ou des faïences ou des porcelaines. Il y a des choses qui sont formidables à celui qui s'est observé naturellement. Il y a des gens, vous lui montrerez une belle porcelaine, il dira « Ah, il est beau ce pot. » Ce ne sera qu'un pot. Et puis pour d'autres, si vous avez vu les faïences de Sèvres par exemple, vous voyez, ou à Limoges, vous voyez, il y a des choses qui sont... Mais, et ça, c'est le feu qui va faire ressortir. Parce qu'il y a un mélange. Et entre nous, c'est la même chose. Nous avons chacun, là, des particularités, je dirais, des coloris, vous voyez. Hein, enfin, je ne parle pas de la couleur de peau. C'est pas ça. Mais je dirais qu'il y a quelque chose que Dieu nous a fait avec un petit particularisme. Et pourtant, il nous a réunis ensemble pour que nous fassions une église, sa famille. Et il faut qu'il ressorte quelque chose. Et je crois que de chaque église locale, il doit ressortir quelque chose, un caractère particulier. Moi, c'est ce que j'ai comme vision pour l'Église locale. Sans oublier l'Église universelle, les autres qui sont à côté. Parce qu'ils font partie aussi du corps de Christ. Et l'Église, moi je dis ici, doit avoir quelque chose de particulier.
parce que nous sommes plusieurs et nous avons des particularismes. Et le Seigneur va faire en sorte que nous soyons ensemble. Et que là, eh bien, peut-être nous passerons au feu. Nous y sommes déjà passés, hein, ça c'est sûr. Et il va faire ressortir une touche particulière.
Au lieu de se faire la guerre, quelquefois, entre chrétiens nés de nouveau, on ferait mieux de regarder autrement et autre chose. Il ne pense pas comme moi. Ben oui, il ne pense pas comme moi. Et il a le droit de penser, de ne pas penser comme moi. Mais est-ce que c'est Dieu qui ne lui a pas donné quelque chose de particulier pour qu'un point de doctrine, ou un point, un aspect du christianisme, ou peut-être quelque chose de particulier qui émane finalement du groupe, eh bien caractérise, au lieu de dire et de stigmatiser avec le doigt pointé en disant « celui-ci, celui-là », etc. La norme, ce n'est pas moi. La norme, ce n'est pas nous. La norme, c'est Jésus-Christ. Ça, ne faut pas l'oublier, parce qu'autrement, alors on devient sectaire. Et c'est bien pour cela que il faut avoir une vision élargie. Seigneur, ouvre-nous grand nos yeux. Et surtout, ouvre-nous nos grands nos cœurs. Parce que si on fait que d'ouvrir les yeux, il faut que le cœur soit véritablement là, et bien placé au cœur de notre observation. Un chrétien solitaire et isolé fait peu d'effet et aura peu de moyens. Il y a quelquefois des cavaliers seuls. Hein. Dieu par l'Église, où se développe une véritable et saine communion fraternelle, où l'on se donne la main d'association dans cette œuvre qui est celle de Dieu, eh bien, va produire des variétés de caractères, la complémentarité de compétences réunies, la solidarité, et tout cela ajoute plus de force et de beauté à l'Église de Jésus-Christ. N'est-il pas dit dans une épître, je ne sais plus laquelle, mais c'est Paul qui dit que Dieu fera paraître l'Église pour qu'elle soit admirée, que Christ soit admiré à travers l'Église. C'est dit, hein ? Vous vous souvenez de ça ? Ouais. Je ne sais pas exactement le texte, hein, mais c'est ça. Que Dieu, eh bien, parlera au monde et parlera, hein, d'une manière extraordinaire pour que les hommes puissent voir qui est Christ à travers l'Église. Alors on se dit, Seigneur, oh là là, comment ça se fait que tu nous as choisis pour qu'on puisse... Ah oui, mais le Seigneur relève des grands défis. Hein. Et si vous voulez le relever, eh bien, on va le relever ensemble. Parce que ça, c'est important qu'on le relève ensemble. Qu'il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. On marche ensemble. Parce qu'on n'a qu'un objectif, c'est la gloire de Jésus. Ce n'est pas la gloire d'une église, d'un mouvement ou de ceci et cela. Non, c'est la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est important aussi. Et le Seigneur continue à pétrir la pâte. Que cette église passe par le feu de quelques épreuves. C'est alors que se révélera d'autant mieux quelques traits, quelques particularités propres à ses composants. Comme dans le vase, il y a différents aspects qui vont ressortir à un moment ou à un autre. Et vous savez, je crois que c'est toujours un émerveillement quand le potier ouvre son four après la cuisson et que, premier coup d'œil, il commence à regarder. Et ce n'est pas fini encore, hein, mais il commence à regarder un petit peu le résultat. Il doit dire, j'avais jamais vu ce coloris. J'avais jamais vu la forme, s'il la connaît, c'est lui qui l'a fait. Mais ce qui peut ressortir sous l'effet du feu. Et il doit toujours être émerveillé. Vous savez qu'il y a des métiers qui sont véritablement là, passionnants, et où on découvre toujours quelque chose. Parce que c'est jamais pareil. Et avec le Seigneur, c'est jamais pareil. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le refaire aujourd'hui, mais il ne le fera peut-être pas de la même manière. Et ça sera toujours une aventure. Et pour nous, c'est une aventure de foi. Et ça, c'est merveilleux. Et nous allons gagner en force spirituelle si nous voulons comprendre cela. Chaque croyant va garder son identité, naturellement, mais cela va faire ensemble une telle richesse, une telle complémentarité, et que nous allons partager, non seulement entre nous, mais c'est destiné aussi à le partager avec les autres. Parce que nous n'avons pas le droit de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Et nous gagnons en force, nous gagnons en beauté. Comme la poterie terminée, eh bien, va gagner en beauté, va gagner en reflet, va gagner en qualité, avec un judicieux mélange. Et ça, c'est le savoir-faire, finalement, du potier, mais après le travail qui va être, entre autres, entrepris, entre autres, le feu. Je poursuis dans l'art du potier. L'artisan n'oublie jamais d'ajouter à la mode d'argile certains additifs indispensables. Alors ça s'est peut-être découvert à travers le temps, ça s'est certainement découvert avec la pratique du métier, ça s'est découvert certainement peut-être par des erreurs. Eh oui, parce qu'on découvre des choses en faisant des erreurs. Vous connaissez l'histoire des bêtises de Cambrai ? Bon, ça c'est un... Oui, mais
Et vous savez que quelquefois, il y a des choses que Dieu va permettre, même dans des erreurs. Et avec ces erreurs, eh bien, il va pouvoir en faire ressortir quelque chose de tout autre. Il va s'en servir. Vous connaissez comment se forme la perle dans l'huître ? Alors, c'est pas une erreur, ça ? De la nature ? Ouais, avec la sécrétion qu'elle va produire, eh bien, ça va faire une perle de grand prix. Eh bien, c'est comme ça que ça marche. Et si nous ne voulons pas, quelquefois, dire « l'erreur n'est pas permise dans une église », eh ben, il n'y aura jamais quelque chose. C'est pas pour ça qu'il faut les faire volontairement, naturellement. Hein? C'est pas pour ça qu'il faut les faire à main levée. Mais toujours est-il que, mais le Seigneur n'est-il pas souverain et au-dessus de tout ça? Et il connaît notre faiblesse. Et il connaît les faiblesses des pasteurs aussi. Bah, bien sûr. Alors, il connaît qui nous sommes. Mais regardez à travers les erreurs de ces grands hommes de la Bible. Est-ce qu'il n'en a pas fait ressortir quelquefois des hommes de Dieu et des hommes de foi? Mais vous savez, ces choses-là, eh bien, ça nous humilie. Heureusement, quelquefois, on fait des erreurs. Parce qu'en faisant des erreurs, et quand on se repent, on reste humble. Et on aime le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de ne pas nous avoir mis au rebut. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Croyez bien. Alors, il y a des additifs indispensables qui maintiennent la souplesse de la pâte, qui accroissent la fermeté de la motte et assurent sa porosité. Alors ça dépend, hein, si vous voulez faire un arrosoir ou si vous voulez faire un vase qui retienne l'eau. Enfin, l'arrosoir, vous faites des trous, bon, ça passe. Mais toujours est-il que la porosité, et vous savez ce que c'est que la porosité? C'est la respiration. Un pot d'argile pour les plantes, enfin bon, si je peux me permettre de vous donner un conseil, hein, utilisez des pots en argile, hein, pour les plantes. Elle se portera mieux, hein. Les pots de plastique, ça vaut rien. Je vous le dis en connaissance de cause, hein, parce que bon, ça respire pas le plastique. C'est pratique, ça. Alors, la respiration. L'objet, à ce moment-là, parce qu'il y a des additifs, ne va pas se fêler et il ne se fendra pas, parce qu'il respire. Alors, les injonctions, simplement techniques, hein, c'est de la silice. C'est peut-être également de la brique réfractaire qui est pulvérisée. Ou encore des argiles déjà passées au feu, que l'on va réutiliser. C'est-à-dire les pots qui ont raté, on va les utiliser, on va les piler, et puis après on les remettra. Au sein de l'Église, Dieu apporte des additifs spirituels. Eh oui! Qu'est-ce que vous en pensez de la jeunesse au milieu d'une Église? C'est pas un additif, ça? Boum, 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 boum. Hein, quelquefois, ça... Il y a de la dynamite. Ouais, enfin, faut pas que ça explose, hein. Faut pas en faire de la nitroglycérine, parce que là, il reste plus rien. Mais toujours est-il que une église a besoin de jeunes en son milieu, en son sein. Et puis, vous me direz, la jeunesse n'allait pas passer par le feu, hein. Mais rassurez-vous, elle y passera. Et je crois que les jeunes doivent aussi profiter des conseils des anciens et ne pas dire, moi, je sais tout. J'ai la science infuse. Parce que quand on est jeune, la caractéristique de la jeunesse, c'est qu'on ne sait pas. Et puis vous me direz, mes frères qui sont arrivés à un certain âge, quand on est vieux, on ne sait pas non plus. Hein. On ne sait pas encore tout. Toujours est-il. Alors, il faut qu'aussi les anciens se mettent à l'écoute des jeunes, parce qu'il y a quelquefois des choses qui sont bonnes. Il y a peut-être des choses qui dérangent la tradition, mais si elles sont spirituelles... Si elles sont spirituelles. Moi, c'est ça ce que je regarde. C'est pas de nouveau, ancien, la vieille outre, la nouvelle outre. Vous savez, Jésus nous en parle parce qu'il l'avait vu, ça. Hein, il en parle dans le sermon sur la montagne. Ce qui compte, c'est que ça soit spirituel. Si c'est charnel, si c'est émotionnel, si c'est d'une sensibilité d'âme, alors à ce moment-là, on pourra le juger. Mais si c'est véritablement une inspiration. Vous savez que le réveil du pays de Galles en 1906 a commencé avec un groupe de jeunesse. Éclaté dans l'Angleterre. Et puis après, ça s'est répandu dans une grande partie du monde. Ah oui, des jeunes. Le baptême du Saint-Esprit à Topeka, dans l'Arkansas, ça commence avec une jeune fille. Dans une réunion, à l'école biblique, réunion de prière. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Ils ont jeûné, ils ont prié. Puis à un moment donné, pop, le Saint-Esprit n'est pas tombé sur les anciens, il est tombé sur des jeunes. Et alors le monde entier a été envahi du pentecôtisme. Voilà. Alors, on comprend tout cela, ce sont des additifs. Hein. L'amour, par exemple, oh, c'est indispensable. La bonté, la tolérance sont des additifs par excellence qui lient les parties constitutives de l'Église pour la rendre inébranlable et lui assurent une parfaite cohésion pour en faire une famille et un corps indivisible. On ne veut pas de diviseurs, mais on veut des gens remplis du Saint-Esprit. jeunes, moins jeunes ou anciens, mais des gens remplis du Saint-Esprit. Une des qualités de l'argile, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa porosité, c'est-à-dire que ça respire. Il existe certains mauvais vernis, parce que vous savez, ça fait bien un pot quand il a été verni, quand il a été un petit peu passé à la peinture, mais il ne respire plus à ce moment-là. C'est beau, enfin, ça dépend de quel usage on veut en faire. Alors donc, il existe certains vernis, je dirais même mauvais vernis et laquage, parce que ça c'est un terme de la poterie, dans la vie spirituelle, qui donne l'apparence, mais qui finalement asphyxie et empêche de vivre et de respirer tel que certaines choses qu'on a instituées dans l'Église et qui n'ont pas lieu d'y être. Parce que nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament, des chrétiens de la grâce, des chrétiens qui vivent dans l'esprit de l'Évangile et non plus dans les rudiments de ce que les Juifs vivaient. On n'est pas juifs. Et même si on était juif, on est appelé à devenir des chrétiens messianiques. Des chrétiens maintenant qui ont reçu Jésus-Christ. C'est ça. Alors, ça, ce sont des additifs qui sont du laquage. C'est un mauvais vernis. On se dit, bah oui, mais c'est comme ça, etc., etc. Il faut vivre avec l'Esprit de Dieu. Je vous le rappelle, la lettre tue, l'Esprit vivifie. Seigneur, donne-nous de pouvoir maintenant, porte-nous sur les ailes. Hein, je dis de la foi, la grâce. Toutes ces choses que nous révèle le Nouveau Testament. Mais... vous savez, le Seigneur veut appeler son peuple à la liberté. Je le disais la semaine dernière. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne retournez pas à ces vains rudiments, nous dira Paul, qui ne servent à rien, sinon à la satisfaction de la chair. Et de dire, comme les pharisiens hier, « Ah, qu'est-ce que je suis un bon pharisien ? Qu'est-ce que je suis un bon chrétien ? Qu'est-ce que je suis ceci et cela ?» Mais que les autres te louent, mais pas ta bouche, nous dit le livre des psaumes. Ouais. Et vous savez que Jésus a été... véritablement très rigoureux avec cet état d'esprit dans son temps, à tel point qu'il leur reprocha, vous avez changé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Ça, ce sont des vernis et des laquages. Et pourtant, nous sommes appelés à la liberté. La liberté en Christ, la liberté par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit la parole. Combien de fois elle nous dit dans le Nouveau Testament ? Parce que l'argile spirituelle risque de devenir une pierre réfractaire, comme nous l'entendons malheureusement dans notre société occidentale et particulièrement dans notre pays. Ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas de l'Église, parce que ce que j'ai pu voir de l'Église, eh ben moi ça ne me donne pas envie d'y rentrer. Soyons avenants, soyons ouverts, soyons souriants. Soyons ce que nous devons être comme Jésus a pu l'être pour le monde. Enfin, et je termine, le potier consciencieux prendra un grand soin de débarrasser l'argile des résidus et des impuretés dangereuses. Parce qu'il y en a. Même après tout le travail qui a été fait, il peut rester encore des choses. Notamment le calcaire. Ah, ça c'est un grand problème pour le potier. Le calcaire qui rend impropre à la cuisson, car sous l'effet du feu, le calcaire produit un gonflement, un écaillement ou un éclatement de la pièce. Parce que c'est une autre nature, le calcaire. L'argile, c'est l'argile, et le calcaire, c'est autre chose. Et alors après, sous le feu, vous savez, les feux, c'est toujours l'image de l'épreuve, hein. Il ne résiste pas. Et, et la pièce qui était faite, eh bien, va, à un moment donné, eh bien, va exploser. On peut dire que le calcaire est un intrus. Comme le sont, je parle librement, hein, l'infiltration au sein du peuple de Dieu des faux convertis. On a parlé tout à l'heure, hein, des critères nécessaires pour faire entrer dans le peuple de Dieu, non pas des loups, mais des brebis et des agneaux, les faux convertis, les gens à querelle, les discuteurs, ceux qui n'en finissent pas de toujours vouloir savoir, etc., etc., et qui coupent la parole de Dieu en quatre alors qu'ils devraient la prendre tout simplement comme elle est, et puis les diviseurs. Et ça, c'est un fléau, hein, c'est le calcaire dans une église. Alors attention, hein, soyons vigilants. On a besoin des uns et des autres pour être vigilants. On a besoin, lorsque les gens vont rentrer, proposent de rentrer, demandent à rentrer, on se réjouit. Seigneur, fais-en rentrer de plus en plus. Mais envoie-nous des bons, hein. Pas des Simon le magicien, qui lui s'est fait baptiser, afin la conversion, et puis
à la fin a dit, tiens, si vous me donnez le Saint-Esprit, moi je vous donne quelques euros. Vous savez comment ça s'est terminé. Ouais. Alors donc, tout cela, eh bien, ça compte. Et sous la pression de la vie de l'Esprit et de son feu purificateur, que tous ces gens-là ne supportent pas naturellement, parce que quand on est charnel, on est charnel, on peut pas être spirituel. Maintenant, quand on est charnel et puis qu'on prend conscience qu'on est charnel et qu'on veut devenir spirituel, mais le Seigneur va le faire. C'est justement là où nous sommes sur le tour, pour qu'il nous façonne. Alors, à ce moment-là, nous voyons que ce genre d'intrus dans le peuple de Dieu va provoquer des éclats, des fissures, des fêlures douloureuses et entame la beauté et l'utilité du corps de Christ. Et on se dit, Seigneur, quand on regarde en arrière, on se dit, mais que de peau cassée. Oh, Seigneur, que de peau cassée. Des peaux fêlées. Vous savez qu'un pot, quand il est fêlé, il ne résonne plus. Hein. Pas pareil, hein, le son n'est pas le même. Je dis, ça sonne faux. C'est pour ça que nous avons besoin d'être vigilants. Tous ensemble, nous avons besoin d'être vigilants. Et d'apprendre à discerner, de demander que Dieu nous donne de la perspicacité spirituelle, qu'il nous donne du bon sens spirituel, de l'intelligence spirituelle, pour savoir faire la différence entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le charnel et puis le spirituel, tout simplement. Et puis, je termine, il y a une autre impureté dangereuse. Imperfection dissimulée que le potier, en pétrissant l'argile, mais seulement en pétrissant l'argile, va détecter et il va enlever. C'est la petite pierre ou le caillou inopportun qui va, s'il n'est pas vu, gâcher le plus beau travail. Et vous savez comment la Bible appelle ce petit caillou ? C'est le levain. Enlevez le levain du milieu de vous. Le levain qui fait lever toute la pâte. Et vous savez ce que ça veut dire dans la parole. Quand la poterie va passer au four, sous l'action de la chaleur, ce levain va ressortir tôt ou tard et deviendra apparent et il va défigurer l'objet. Et quelquefois, vous savez, les objets de deuxième choix, quand vous les regardez, à un moment donné, vous voyez, il y a une boursouflure. Ben, remarquez, vous avez toujours le moyen de le tourner à l'envers et de ne pas voir là, hein. Ça coûte moins cher. Enfin, si vous voulez quelque chose de bien, il faut prendre un objet parfait. Mais toujours est-il que ça va défigurer l'objet. Et qu'est-ce qu'il y a des choses qui, quelquefois, défigurent dans le peuple de Dieu ? Et on s'y est tellement habitué, c'est qu'on ne les voit plus. Ah oui. Alors, je ne prône pas une église qui est déjà super sainte et déjà au ciel. Hein. Non, parce que tant qu'on sera sur la terre, il y aura toutes sortes de choses. Mais néanmoins. Néanmoins, il y a des choses qui sont quand même à faire attention. Or, Dieu connaît toutes ces imperfections et auxquelles le Saint-Esprit fait la guerre pour nous en débarrasser. Et pas forcément en cassant les poteries, en les mettant dehors. Pierre à aspérité qui coupe. Je pense aux défauts caractériels. Le Seigneur dans l'Église nous a appelés à vivre ensemble et chacun d'entre nous, nous devons faire des efforts dans nos relations les uns avec les autres. On ne dit pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe comment. Il y a des choses où il faut faire attention. On a notre caractère, mais notre caractère doit être repris en sous-main. Et on ne peut pas prétexter de dire, « Ah bien Seigneur, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, c'est plus fort que moi. » Vous savez ce que le Seigneur va vous dire ? Ben alors, qu'est-ce que tu fais pour changer ? Qu'est-ce que tu fais pour diriger, pour laisser cette nouvelle nature rentrer en toi ? Ça, ce sont finalement ces pierres à aspérité. Ce peut être des grains de sable de la communion fraternelle. Ce peut être des critiques, des médisances. Ce peut être le péché en général, d'une façon ou d'autre, qui véhicule la grossièreté et rend inapte au service. Alors la conclusion sera la suivante, brève, simple. À la lumière de cette comparaison, quel qu'en soit le prix et la durée du traitement, parce que le traitement peut durer longtemps, hein. Quand on s'est converti à 20 ans, il faut être fidèle jusqu'au bout, hein. Ça peut durer longtemps. Ça c'est sûr, et puis quelquefois l'école de Dieu, eh bien là, elle prend quelquefois des mois, elle est sur des années, jusqu'au moment où nous arrivons à une autre dimension. Alors, autant que dure le traitement, nous comprenons mieux la signification par où, comment et pourquoi Dieu nous tient dans sa main divine de potier, et le but qu'il veut atteindre, c'est être à l'image de son Fils Jésus-Christ, être des vases d'honneur. Alors, l'argile, avant de devenir porcelaine, puisque c'était l'argile plus noble, avant de devenir porcelaine, doit être longuement travaillée. Et Dieu dit à son peuple d'Israël, comme il nous le répète encore aujourd'hui, il nous dit ceci, « Ne puis-je pas agir envers vous comme le potier, dit Dieu, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Merci Seigneur de ce que je suis dans ta main. Merci Seigneur de ce que, eh bien, tu me prends, tu me travailles, il y a des fois des ratés dans ma vie, mais tu ne renonces pas à me conduire et à me diriger. Et écoutez cela, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, nous sommes appelés à sa gloire éternelle, parce que ça c'est le but de la vocation céleste, après que vous aurez souffert un peu de temps, l'eau, le feu, ceci, cela, eh bien, il nous est dit que Dieu nous perfectionnera lui-même. Il nous affermira, il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. Et le texte écrit par Pierre nous dit, à Dieu soit seule la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il fasse véritablement ce travail magnifique du potier. Amen.